Aurore Vincenti est linguiste. Vous la connaissez les uns et les autres pour l'avoir écoutée dans ses chroniques sur France Inter ou pour avoir dévoré peut-être son ouvrage « Les mots du bitume » aux éditions Le Robert.
Ce serait difficile, il n'est pas encore sorti. Mais...
Ah pardon.
Dans quelques jours, quatre.
Mais c'est marrant parce que à Poitiers, à la librairie La Belle Aventure, la libraire m'a dit, vendredi dernier, avez-vous lu Aurore Vincenti? Je dis non. Elle me dit, ah, faudra pas le rater. Et du coup, j'ai cru qu'il était sorti. Moi.
Non.
Pardon. Donc.
Vous allez lire.
Elle a l'art.
Conseil de lecture pour la semaine prochaine.
Elle a l'art d'attraper une expression de notre langue quotidienne, de la faire parler, cette expression, de nous en dire beaucoup plus que nous ne pensions en dire en l'utilisant. Vous savez, toutes ces petites formules, un coup de tête, des nouvelles du front, la puce à l'oreille, les yeux doux, à vue de nez, à pleines dents. Alors, je vous dis pas la honte.
Justement, le corps, c'est important pour moi dans mon travail de linguiste. Je ne pense pas la langue hors du corps, donc je vais me mettre debout parce que assise, c'est difficile de parler. Oui, c'est gentil. Parfait, merci. Bonjour et merci de m'accueillir. Je ne fais pas le même métier que vous et c'est d'ailleurs très difficile de se retrouver devant vous parce que je fais un drôle de métier. Linguiste, c'est un métier qui concerne à peu près tout. On me dit, mais vous connaissez les mots, donc vous connaissez tout. Ben, les mots ne sont pas des trucs vides, ils recouvrent des réalités. Or, votre réalité, en théorie, je ne la connais pas ou je ne la connais pas bien. Donc, on m'a demandé de venir pour parler des mots de votre réalité, qui est ce que vous connaissez bien mieux que moi. Je vais voir ce que je peux faire. En plus, les mots, ce sont en effet des étymologies, des histoires éventuellement, mais ce sont aussi des évolutions, des histoires à travers le temps, des emplois. Et tout ça, ça va peut-être pas vous parler directement. Donc je vais vous demander un peu d'indulgence déjà. Et puis peut-être de regarder ce que j'apporte comme une boîte à outils dans laquelle on n'utiliserait pas forcément tout. Mais peut-être qu'un outil va vous faire penser à quelque chose, un de vos outils à vous, dans vos boîtes à vous. Donc j'arrive avec mes outils et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Ce qui m'intéresserait, dans une certaine mesure, si c'est possible, ce serait d'avoir vos réactions. À la fin ou pendant mon propos, n'hésitez pas à m'interrompre. Savoir ce qui, dans ce que je dis, en relation avec les mots, se retrouve dans votre quotidien, dans vos réalités à vous. Je trouverais ça plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon. Je vais commencer. Donc, j'ai pris les deux mots du titre, honte et dignité. Il y en a d'autres qui vont intervenir et je suis très contente de vous avoir entendu et sur des questions bibliques. Et sur Boris Cyrulnik, le regard qui est au cœur de mon propos également. Voilà, que disent les mots? Déjà, peut-être à la dignité, j'ai commencé pas par le pire, même si ça aurait été mieux de faire honte d'abord et ensuite de clore en beauté avec de la dignité, mais il se trouve que pour moi, la dignité, c'est un socle, c'est une base. C'est un mot qui ne se définit pas bien. Vous pensez liberté, par exemple, c'est pareil, ce sont ces grands concepts abstraits derrière lesquels il y a des réalités, mais qu'on ne peut pas circonscrire dans une définition de dictionnaire. Enfin, si, de dictionnaire, peut-être, mais forcément, il y aura des choses qui sortiront de ce cadre clos de la définition. Ça relève de l'indicible, donc. Je ne vais pas revenir sur la dimension juridique, vous la connaîtrez certainement mieux que moi. Je vais plutôt parler de l'histoire du mot. Quand est-ce que, dans notre histoire à nous, de France, du monde aussi, mais en France, puisque c'est un mot qu'on emploie en français, on s'est mis à avoir conscience et besoin même de l'exprimer? C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais, et vous savez ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir non plus sur les détails. Le mot avait déjà été employé plusieurs fois, notamment au sujet de l'esclavage. J'ai choisi ces deux exemples de l'histoire parce qu'on les connaît bien, parce qu'ils sont facilement accessibles et qu'on va pouvoir en tirer des éléments de définition. Je cite simplement le décret Schœlcher de 1848 abolissant l'esclavage. l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine. Alors, il y a eu d'autres moments dans l'histoire, mais voilà, prenons ces deux-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2005, lorsqu'on a commémoré les 50 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, du génocide des Juifs, de la Shoah, le mot dignité, moi je me souviens parce que j'étais au lycée à cette époque-là, je me souviens que le mot dignité était dans toutes les bouches, les profs d'histoire en parlaient tout le temps, c'était vraiment, moi il m'a marqué pour ça. Et en effet, dans la langue française, quand on ouvre des ouvrages d'histoire de la langue française, c'est là qu'il apparaît comme une véritable nécessité de le dire. Primo Levi, Hannah Arendt en ont parlé, de la dignité humaine. Or, le génocide des Juifs et l'esclavage, je suis désolée, j'ai pris ces deux exemples, il y aurait la torture, l'apartheid, l'abus sexuel, la déportation de masse, il y en a plein d'autres de contextes et les vôtres qui sont tout à fait aussi valables dans cette catégorie et qui traitent de la dignité, mais ces cas particuliers sont des crimes contre l'humanité. Et voilà mon premier élément de définition. Pour moi, la dignité, et j'espère ne pas être la seule à penser ça, la dignité est synonyme d'humanité. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait correct, c'est un peu un raccourci. C'est vrai, mais c'est un premier élément de définition. Humanité dans ses deux sens. Le premier, c'est l'humanité avec un grand H. Donc, tous les humains. C'est-à-dire que quand on touche à la dignité de l'un, on touche à l'idée de ce que c'est qu'être un être humain. Et donc à l'humanité dans sa totalité. Et l'humanité dans sa deuxième définition, qui est une valeur. Vous avez traité quelqu'un avec humanité. Donc l'humanité avec un grand H et l'humanité comme valeur. Donc premier élément, dignité, humanité. Je trouve que commencer par ça, c'est fondamental. Quand Primo Levi parle de dignité humaine, il parle aussi de déshumanisation dans les camps. Donc la notion d'humanité est centrale. Pourquoi justement la dignité est difficile à définir ? C'est parce que l'humanité l'est aussi. Ça supposerait qu'on est capable de définir ce que c'est que l'essence de l'être humain, de la vie humaine. La dignité ne permet pas donc d'accéder directement à ça de manière très précise, tout comme le mot humanité ne le permet pas. Mais la dignité permet de poser une base juridique, de définir juridiquement comment il faut ou ne faut pas traiter un humain. Et l'étymologie, l'origine du mot dignité, ça vient d'un mot latin, decet, il convient, ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Quand je dis comment il faut ou ne faut pas traiter un humain, il y a deux personnes dans l'histoire. Celui qui traite et celui qui est traité par l'autre. L'humanité, elle est des deux côtés. Il s'agit de ces deux personnes. Pas seulement du côté de la victime, je caricature, mais de celui qui est maltraité, mais aussi de celui qui traite l'autre. Donc je dois être traité comme un humain, mais celui qui me traite est lui aussi humain et doit faire preuve d'humanité et donc de dignité. J'ai mis ces deux mots, vous comprendrez, en parallèle. Donc traiter dignement, c'est traiter la dignité de quelqu'un. Je peux aller même un peu plus loin pour pousser le raisonnement. On peut s'occuper d'un animal dignement. C'est donc bien la preuve que celui qui est en position d'accompagnement, celui ou pas, celui qui témoigne, enfin qui est témoin d'eux, celui qui respecte ou ne respecte pas, est dans la position de faire, en tant qu'humain, d'être digne. Si on s'en tient à l'histoire, l'esclavage a représenté une façon indigne, et vous voyez bien que le mot indigne vient de dignité, de traiter des êtres humains non comme des humains, même presque pas comme des animaux, mais plutôt comme des objets de transaction, des choses qui n'avaient pas de valeur, mais qui avaient un prix. Je viens à cette histoire du prix. Ça m'a fait penser au mot mépris. Le mot mépriser signifie mal priser. Priser, c'est donner un prix, comme le commissaire priseur. Dans le mépris, il y a l'idée qu'on n'accorde pas de valeur à quelque chose, qu'on n'accorde pas de prix, contrairement à l'estime, où là on estime, et là aussi c'est du côté du chiffre, la valeur de quelque chose, on l'apprécie. Alors j'attire votre attention, néanmoins, malgré ces mots qui sont un peu confus et qui renvoient quand même à l'idée d'une monétarisation, mais que dans le langage en français, on va faire une différence entre la valeur et le prix. Même si on parle de la valeur d'un objet, quand on ne parlera pas du prix d'un humain, mais on parlera de sa valeur. La dignité, elle accorde une valeur. à l'être humain, mais pas un prix. Et cette valeur a la particularité d'être inestimable. C'est un paradoxe, hein, une valeur inestimable. Les esclaves, eux, on leur a donné un prix, on les a vendus, échangés, maltraités au point de les tuer, en gros comme un objet usé dont on se débarrasse une fois qu'il n'est plus utile. Là, le caractère indigne de l'esclavagiste a un impact direct sur la dignité de l'esclave. Je vous donne une définition du Littré, la quatrième. La dignité est un respect qu'on se doit à soi-même. Et je reviendrai sur la notion de respect. Là, j'en viens à quelque chose qui m'est cher. Qu'est-ce qui constitue la valeur de l'humain? Qu'est-ce qui est touché quand il y a un manque de dignité? La tradition philosophique française est très particulière pour ce qu'elle a séparé le corps de l'esprit. Les Lumières, ça a été ça. Ça a été l'homme est un pur esprit, c'est un animal pensant, mais l'animal, on préfère l'évacuer. Avant tout, il pense. On focalise tout sur cette dimension morale, mentale, spirituelle, intellectuelle. Et le corps, on préfère l'oublier. Il n'est vraiment pas très utile. En plus, il nous limite, alors que l'esprit est illimité. Donc, on a la glorification de l'esprit d'un côté et le mépris du corps de l'autre. Mais quand on porte atteinte à la dignité, on ne peut plus se satisfaire de cette scission entre corps et esprit. Il s'agit de la personne humaine, et son corps et son psychisme sont indissociables. J'attire d'abord votre attention sur le corps, qui a des besoins vitaux, qui, lorsqu'ils ne sont pas assouvis, engendrent le fait que l'intégrité de la personne humaine n'est pas préservée. Je pense notamment à quelque chose qui était... moi, j'ai ma vision de public extérieur, hein, mais que j'ai vu dans le métro ces derniers mois, peut-être l'année dernière, les kits de dignité, notamment pour les migrants et les réfugiés, avec une brosse à dents, un savon, enfin, vous savez ça mieux que moi. Cette idée que préserver l'intégrité du corps, c'est préserver l'intégrité de la personne en entier, et que ça a un impact sur son moral, sur son mental. Il y a aussi plusieurs formes de torture mentale, ne serait-ce que la peur ou le manque de sommeil. Donc ne pas oublier, je pense, dans le concept de dignité, qu'il y a l'association de ces deux aspects et qu'on ne peut pas se contenter de séparer corps et esprit. J'en reviens à la notion de respect. Respect de la personne humaine, respect de soi-même avant tout comme personne humaine. Il y a une responsabilité qui se joue à ce niveau-là. Le mot « dignité », quand il est employé en français au début de son histoire, c'est-à-dire au XIIe siècle, il a une signification assez particulière. Il désigne la charge qui donne à quelqu'un un rang éminent. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est de garder le mot « charge ». Charge, une charge, c'est une responsabilité. Cette responsabilité, elle renvoie à ce qui est... éminemment précieux, c'est-à-dire l'humain, la vie humaine. Donc cette dignité, c'est le respect de cette charge, de cette responsabilité de protéger l'intégrité humaine. Voilà un autre élément de définition. Et d'un point de vue politique, dans une certaine mesure, c'est le premier devoir avant la liberté, avant l'égalité. Il y a ce principe de dignité qui sous-tend cette responsabilité qui, même si elle est lourde, c'est une vie humaine, elle est incompressible. J'ajoute à ça un éclairage sur le mot « respect ». Le latin « respectus » vient de « respicere ». Alors, « spicere », ça veut dire « regarder », et « re », c'est un préfixe intéressant qui signifie « en arrière ».« Regarder en arrière ». Ce mot « respect », il a pris l'essence de « considération »,« égard » et de « refuge » et « secours ». Je reviens donc sur la question du regard qui me paraît essentiel dans le mot dignité et vous verrez qu'il est également dans le mot honte. Dans les mots respect, considération, reconnaissance, il y a du regard. Donc spicere, c'est regarder, respicere, respecter. Considere, sideris, c'est l'étoile que l'on regarde. Dans considérer. Et la reconnaissance, c'est faire la connaissance de l'autre visuellement et reconnaître qu'il est bien là, qu'il est bien existant. Donc dans le respect, il y a l'idée qu'on accorde son regard à chacun et que l'on considère chaque personne et que par là même, on reconnaît son existence et sa valeur. Cette connaissance, cette reconnaissance est nécessaire à la dignité. Je reconnais par le regard, parce que je t'accorde mon regard, je ne passe pas à côté de toi ou alors au contraire, je ne t'écrase pas par mon regard, par mon mépris. Cette reconnaissance, c'est je reconnais que tu es humain au même titre que moi. Et c'est ça, le respect. Maintenant qu'on a parlé de dignité et de ces mots qui y sont associés, je vais vous parler de la honte. On a d'un côté donc la dignité où il y a un certain degré d'abstraction. Hein. C'est un concept, la dignité, comme je vous disais, difficile à définir, qui relève de l'indicible. Je vais boire. Pardonnez-moi. Dans la honte, il y a quelque chose, dans une certaine mesure, qui est connu de tous, plus facilement, peut-être pas plus facilement définissable, mais dont le mot fait plus partie du quotidien. On se retrouve avec un sentiment. La honte, c'est un sentiment qui est extrêmement connu. Parfois même, on dit aux enfants, tu devrais avoir honte. Une phrase qui me laisse songeuse. Personne ne sait mieux que moi, que soi-même, que vous-même, que soi, ce que c'est que la honte, puisque c'est un regard que l'on porte sur soi. Mais, par souci du jugement des autres, de la société, mon regard et ma peur de celui des autres, c'est en quelque sorte un regard extérieur, celui de la société, de ma famille, que j'ai intériorisé. Souvent, la notion de honte est associée au sens de la vue. Et là-dedans, il y a une notion de morale sur laquelle je reviendrai. Et alors, chose étrange, mais enfin bon, on l'a vu avec la Bible, hein, c'est un des meilleurs exemples. Certains pensent que la honte, c'est une émotion autoprotectrice. Il y a beaucoup de penseurs qui ont écrit sur le sujet, beaucoup de philosophes. Alors, j'ai conscience de moi, du contrôle de moi. C'est la honte qui me permet d'avoir cette conscience du contrôle de moi-même. Si je n'avais pas honte, je n'aurais pas conscience de ma nudité, comme Adam et Ève, et je me baladerais toute nue devant tout le monde. Donc heureusement que j'ai honte, comme ça, ça m'évite de faire ce genre de choses qui sont répréhensibles dans la société. De même, au cours de l'éducation, la honte est le signe qu'on se rend compte de ses erreurs. Là, je paraphrase ce que de nombreux auteurs et philosophes ont évoqué au sujet de la honte. Alors, pour moi, c'est assez controversé comme sujet, comme vision des choses. Je ne sais pas ce qu'il en est dans vos métiers. Il y a une forme de relent catholique étrange qui est terriblement associée à de la culpabilité chrétienne. Mais il faudrait aussi distinguer honte et culpabilité qui vont vraiment main dans la main et qui sont deux joyeux sentiments. Mais pour en revenir à cette histoire d'Adam et Ève, il y a l'idée encore visuelle que la honte, c'est ce moment où on montre ce qu'on aurait préféré garder caché. Et là encore, il y a c'est associé au corps qu'il ne faudrait pas oublier. Aussi parce que dans la tradition, on a considéré que le corps était plus bas que l'esprit. Mais encore une fois, reprenons la personne dans son intégralité et son intégrité. Je dirais que plus que la notion de corps ou d'esprit, il y a une notion de bas et de haut. Dans la honte, il y a le sentiment de ne pas se sentir à la hauteur. On peut avoir honte d'avoir commis une bassesse, d'avoir dit une bêtise ou de se trouver dans une situation abaissante, humiliante, des conditions de vie difficiles par exemple. Mais je dirais que dans l'ensemble, il s'agit d'un jugement porté sur quelque chose qu'on estime ne pas être à la hauteur. Et quand je parle de la hauteur, c'est pour évoquer cette bassesse, voilà, dans la honte. La honte est un sentiment de rabaissement, d'abaissement de soi, et elle est souvent associée au bas du corps, donc les organes génitaux, l'hygiène. Dans cette histoire de haut et de bas, de noble et de honteux, il y a un jugement de valeur, il y a une norme morale. C'est la morale qui porte un jugement, qui nous pousse à nous juger nous-mêmes ainsi que les autres. Donc, culpabilité et morale dans la honte. Pour conclure, je voulais relier honte et dignité dans ce que j'ai pu dire du point de vue de la langue, de l'histoire de la langue, voir les points où ils se retrouvent, ces mots, et vous le ferez vous-même certainement sans difficulté, mais j'ai relevé deux points. Le point majeur, c'est la question de la personne, de l'être humain, de son intégrité morale et physique. Il me semble que ça exprime la nécessité absolue de ne pas couper l'humain en morceaux, de ne pas considérer que si le corps est touché, l'esprit ne l'est pas, et inversement. Et j'ai le sentiment que la dignité irait vers cette réunification de la personne. Le respect du fait qu'elle est humaine, douée de pensée, de réflexion, d'émotion, mais aussi d'un corps fort et vulnérable. Et c'est là qu'intervient la nécessité de poser un regard sur l'autre pour reconnaître cette intégrité. et que la notion d'égalité entre les êtres est sous-tendue par ce principe de base qui est la dignité humaine. Le rapport au regard et à la vue est central à ces deux idées, honte et dignité. C'est la peur de ce regard qui pourrait juger, exprimer du dégoût, qui fait qu'on ressent de la honte. Par le regard, on respecte et on reconnaît la dignité de l'autre. C'est parce qu'on regarde l'autre qu'on lui reconnaît sa dignité, qu'il se reconnaît lui-même comme étant humain. C'est comme dans un miroir. Je me reconnais comme étant humaine. En regardant l'autre, je le reconnais et il se reconnaît parce que mon regard lui offre un miroir. Et tout ça est dans le préfixe « re », regarder, respecter. Ce « re », il dit la répétition d'une part, mais il dit le retour. Le retour, pas en arrière, pas dans le temps, mais la notion de mouvement d'aller-retour. Et ce mouvement d'aller-retour, il est présent dans le regard en permanence. C'est ce regard que je porte sur vous et que vous portez sur moi. Et ce mouvement-là, réflexif, c'est un mouvement de va-et-vient, de reconnaissance. Donc voilà, j'ajouterai ces mots qui ont trait au regard. Respect, reconnaissance, considération, qui sont à la jonction entre honte et dignité et qui, du moins par le langage, apportent des éléments de réponse. Je vous remercie. Est-ce que vous avez... Oui,
voilà, merci beaucoup. Effectivement, c'est le moment de réagir à ces propos. N'hésitons pas. Est-ce que tout de suite, quelqu'un prendrait la parole pour commenter, réagir, questionner, demander de prolonger un peu? Personnellement, j'irais bien vous chercher du côté de la notion... Vous avez utilisé le terme... Non, vous n'avez pas utilisé le terme.
Ah.
C'est non, excusez-moi. C'est Madame Versini qui l'a utilisé tout à l'heure. La notion de prise en charge et l'éclairage que vous donniez sur la charge m'a rendu ce terme un peu moins énervant. Je déteste la prise en charge.
Vous préférez la prise en compte ?
Non, certainement pas.
Non.
Mais en considération, pourquoi pas ?
D'accord.
D'accord. Mais la prise en charge, elle a quelque chose d'insupportable. Si je suis une charge, foutez-moi la paix. Enfin, j'exagère à peine. Mais du coup, si je regarde la charge, comme vous le suggériez, sous le terme
responsabilité.
De responsabilité, alors ça me dérange davantage.
Davantage ou moins ?
Ah, non, je veux dire...
Êtes-vous dérangé, somme toute ?
Ah oui. Dérangé, oui. Je suis même un peu dérangé, mais... Mais oui, ça me dérange. Je veux dire par là que... pour une part, il est bien vrai que les travailleurs sociaux, qui partent ou médico-sociaux, qui partout disent qu'ils prennent en charge, vont exercer une responsabilité. Ce n'est pas faux, cela. Ce que je trouve terrible, c'est que dans cette prise en charge, il y a la signification à l'autre du poids qu'il pèse dans le budget de la Sécu ou du reste. Voilà, on voit bien le drame que ça peut engendrer. Mais cette notion de responsabilité, elle vient me déranger dans la manière que j'avais de regarder cette notion de prise en charge comme détestable.
Mais je vous rejoins sur la dimension détestable de la prise en charge. En effet, le problème des mots, c'est qu'ils nous font entrer dans des catégories et ils sont lourds de connotations. Et en effet, la charge, elle a une connotation d'assistanat, dans une certaine mesure, d'idée de se sentir un poids, d'être lourd, de ne plus pouvoir se débrouiller par soi-même. Mais j'ai l'impression, et c'est vous qui me direz si je me trompe, que les métiers dans le médico-social, je suis désolée, j'ai pas le jargon, vont davantage vers, non pas une prise en charge, mais peut-être une prise en charge de soi-même ou une responsabilisation, même si, là aussi, la notion de responsabilisation, elle est compliquée, elle est ambiguë. Ça veut dire, sois responsable de toi-même. Si je n'en suis pas capable, comment puis-je l'être ? Si je n'en suis pas capable physiquement, même à d'autres niveaux. Donc je trouve qu'en effet, ces termes, ils sont très ambigus et ils sont difficiles à manier. C'est pour ça que j'évite de parler de prise en charge dans la mesure du possible. Mais la charge du côté de la responsabilité dans le cadre de la dignité, je la vois plutôt du côté de chacun pour soi et chacun pour tous, dans ce mouvement, dans le rapport de l'humanité qui est « je suis humain, tu l'es aussi, nous nous reconnaissons comme tel ». Et donc nous avons la charge, la responsabilité de protéger cela. Alors il y a aime ton prochain comme toi-même, hein, mais je vais essayer d'éviter les références chrétiennes outre mesure.
En même temps, accompagnement et autonomie sont aussi des mots qui voudraient à eux seuls un petit temps d'explication qu'on n'a pas forcément là. Mais on sait bien aussi, nous, qu'accompagnement et autonomie, ça, c'est encore des nouvelles portes à ouvrir.
Oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait un vrai chantier dans le langage de l'accompagnement. Ce que je trouve très beau, c'est que, des métiers du social et de la solidarité, ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a vraiment un effort de retravailler ces termes-là et d'aller chercher au plus juste, et pas seulement du côté justement de ceux qui accompagnent, mais aussi des publics, même si encore une fois, je sais que j'ai employé le mot accompagnement et public et que potentiellement ce ne sont pas les bons, mais il y a justement cet effort-là.
Allez, merci.